Vous écoutez l'écho du Félipé, 19e édition du Festival du Livre et de la Presse d'écologie, Félipé 2021. Les luttes pour le vivant. Comment agir avec les vivants contre ceux qui les effondrent? Une table ronde avec Geneviève Kiné et Alan, animée par Léna Ballot et en partenariat avec la revue Terrestre.
Bonjour. Donc c'est une table ronde qui est animée par la revue Terrestre, qui est... que j'incarne aujourd'hui. Donc c'est une revue en ligne, revue des livres et des idées et des écologies, qui est pas seulement une revue, c'est aussi un collectif. En plus de faire une revue, elle anime un séminaire à Montreuil. Elle prépare les prémices d'une pluriversité de la Terre et elle anime aussi une série d'enquêtes, un processus d'enquête qui s'appelle Reprise de Terre. Et aujourd'hui, donc, on voulait vous proposer une table ronde sur le thème « Agir avec les vivants contre ceux qui les effondrent ». Alors, pourquoi cette question ? Peut-être vous avez déjà entendu parler du slogan écologiste nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, qui est un slogan très intéressant. Mais en quelque sorte, on voulait rajouter une complexité à ce slogan qui est déjà très intéressant et très paradoxal. C'est que, en fait, la nature, les autres vivants de la nature ne nous ont pas attendus pour se défendre. Et donc, quand on entre en lutte, finalement, on entre en relation avec des lieux, des vivants, des dynamiques qui peuvent être déjà par elles-mêmes en train de résister aux grands projets qu'on veut, auxquels on veut faire face, etc. Et donc, ce fait. Amène des gens qui luttent à se poser la question de comment on peut agir dans les luttes en relation avec ces vivants qui résistent par eux-mêmes déjà, quoi. Qui résistent, qui réparent, qui en tout cas indiquent des dynamiques propres. Pour en parler, on a deux invités aujourd'hui. Geneviève Kinette, qui nous vient de Bruxelles, qui est venue, merci d'être venue de Bruxelles pour nous parler du Marais Wills. Alors le Marais Wills, qui est un lieu qui est sur la commune de Forêt, qui est tout près de Bruxelles, dans l'agglomération de Bruxelles, quoi. C'est bien. Dans la région de Bruxelles. En fait, c'est un marais qui est né accidentellement. Suite à un accident de travaux, il y avait des travaux pour construire un immeuble de bureaux, il me semble, et les tractopelles ont creusé trop profond et ont percé une nappe phréatique qui était sous pression, et donc l'eau a commencé à monter petit à petit, et au bout de plusieurs années, ça a fait une immense étendue d'eau qui a été peuplée. Voilà, elle a amené des super images, ça a l'air d'être un lieu très beau. et donc ce lieu s'est peuplé de plein de vivants et donc il y a tout un collectif qui défend ce lieu pour lui-même, enfin non seulement pour l'usage que les humains peuvent en faire, mais aussi pour lui-même. Et elle va nous raconter. Et Alan Sol, donc qui va nous parler d'une lutte qui a eu lieu à Mardier. C'est un petit village qui est un peu en amont d'Orléans, le long de la Loire. Une lutte qui luttait contre un projet de déviation routière et de pont sur la Loire qui avait comme objectif de densifier, disons, le tissu routier pour d'une part contourner un bourg, mais faire en sorte que autour d'Orléans les camions et les voitures, etc., circulent plus. Et donc ils ont défendu notamment un bois qui était en péril juste au bord de la Loire. Et peut-être j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, par qui je commence ? Bon, Geneviève, ça te va de commencer ? Ouais. Dis non, ouais. Alors, pour un peu que vous puissiez chacun décrire, planter le décor, comme je disais tout à l'heure, tout en étant directement les deux pieds dans la problématique de cette table ronde, je voulais donc vous poser chacun cette question, mais je propose de commencer par toi. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer le lieu que vous avez défendu? Et quand vous avez rencontré ce lieu, de quelle manière il se comportait déjà par lui-même avec ses propres dynamiques écologiques? Et de quelle manière il résistait peut-être déjà par lui-même, à, en l'occurrence, au projet immobilier? Et quelle action vous avez menée collectivement en relation avec les actions de ses habitants? Par exemple, est-ce que vous avez suivi ces dynamiques?
Bonsoir. Alors, je vais vous représenter un peu rapidement le marais Wills, qui n'est pas un marais, mais qui a la biodiversité d'un marais. On se trouve là en fond de vallée, parce qu'à Bruxelles, on a aussi la Seine, mais avec S-E-2-N-E. Et on est sur des terres marécageuses, du moins avant l'industrialisation. Et des brasseries viennent s'installer, les brasseries Willmans Köppens, hein, qui font de la bière et qui utilisent de l'eau de la nappe phréatique pour faire la bière, parce qu'il y a besoin d'énormément d'eau pour faire de la bière. Entreprise florissante, blablabla, 88, globalisation, on tire la dernière bière en 88, et puis on se retrouve avec une friche complètement abandonnée. Et vers 2000, il y a un rachat et l'idée est de construire des bureaux, parce qu'à l'époque, à Bruxelles, on avait absolument besoin de bureaux, de bureaux, de bureaux, de bureaux. Et on verra que maintenant, on a tellement construit de bureaux qu'on nous dit qu'on a absolument besoin de logements, 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 parce que les bureaux, en attendant, ils sont vides. Donc on n'arrête pas de massacrer la ville, mais je crois que ce n'est pas uniquement Bruxelles, hélas. Donc des travaux en 2007 vont commencer et en effet vont percer la couche d'argile au-dessus d'une nappe phréatique qui elle-même est au-dessus d'une couche d'argile qui elle-même est au-dessus d'une nappe phréatique. Enfin, bon, Bruxelles ça veut dire marécage en réalité, mais ici on est vraiment en fond de vallée. Donc ils ont percé la nappe phréatique et ont tenté de pomper pendant quand même un an, et puis la crise financière est arrivée en 2000, la crise bancaire en 2008, et là ils ont, voilà, ils se sont dit bon, pff, on va abandonner, pour le moment on n'a pas trop d'argent, on a d'autres chantiers à travailler, et donc ils ont complètement abandonné cet endroit, et d'une flaque, d'une inondation, on est passé à un marais qui n'est pas un marais, qui est un plan d'eau qui se trouve dans une excavation de terre, au fait, et qui qui est constitué d'eau d'une nappe phréatique qui monte et qui descend en fonction des pluies, et qui est constitué et aussi des eaux de pluie qui tombent du ciel, mais qui ne tombent pas nécessairement d'un ruissellement, oui. Si, sans doute par le sous-sol, mais voilà. Pendant 10 ans, cet endroit a été, mais alors complètement ignoré, parce qu'il était caché par des palissades. Donc de la rue, on ne le voyait pas particulièrement. Il restait quelque chose de très mystérieux du haut de la butte de chemin de fer. Donc quand les gens prennent le train, ils voient ce petit paradis là. Et donc en 10 ans, la biodiversité, c'est installé. Ça a commencé sans doute l'eau. Dans l'eau, il y a du micro-organisme. Directement, il y a des insectes. Et puis, les insectes, ils attirent les oiseaux. Les oiseaux, peut-être sur leurs pattes palmées, ils viennent avec des poissons, avec des œufs de poissons. Enfin, directement, assez rapidement. Mais en tout cas, en 10 ans, on a là un écosystème extraordinaire. Et c'est là que donc le vivant, en fait, non humain, a agi directement. En fait, il a été, alors je ne sais pas si on doit dire opportuniste, mais il a profité de la flaque ou de l'inondation. Voilà, il y a des roselières, il y a eu le grèbe castagneux, il y a des saules, il y a des cormorants, il y a des hérons, il y a des foules macroules, des tritons alpestres, évidemment toute la biodiversité qu'on ne voit pas qui se trouve dans l'eau, c'est d'une richesse extraordinaire et ça ne déborde jamais, parce qu'il faut savoir aussi que dans le fond de la vallée on a beaucoup d'inondations dans les maisons, et ici c'est un plan d'eau qui ne déborde jamais. Et en 2017, le promoteur revient à la charge, et veut construire des appartements, 220 appartements. Hein, il faut que ce soit du bon gros rendement. Et ignore le plan d'eau. Et pour construire sur une dalle de béton et mettre 200 places de parking. Donc c'est là que l'humain intervient. Enfin, c'est-à-dire que non, l'humain est intervenu avant, et heureusement qu'il existe des gens qui sont des naturalistes ou ornithologues ou passionnés et qui, dès qu'ils voient une friche, recensent. Et grâce à ce recensement qui a eu lieu pendant un peu moins de 10 ans, on a pu prouver en commission de concertation que il y avait du vivant, que c'était déjà habité au fait. Et qu'il n'y a pas moyen, on ne peut pas... voilà. Enfin, il y avait d'autres raisons, mais au niveau de la biodiversité, ça a été un des arguments. Parce qu'il faut savoir que le propriétaire et même la région niaient complètement l'existence de ce plan d'eau, pour qui c'était uniquement une flaque ou une inondation. Et nous, on avançait. Ben alors, comment se fait-il que vous reconnaissez qu'il y ait des oiseaux d'eau, qu'il y ait un écosystème, etc., qui correspond à de l'eau, mais que vous ne reconnaissiez pas qu'il y ait de l'eau? Donc, on était dans le classique surréaliste belge, mais j'imagine, ben voilà. Ça marche en France aussi. Hein. Alors, comment est-ce qu'on a aidé le vivant? Puisque le vivant, il s'est aidé tout seul, finalement. Alors, je ne pense pas qu'il s'est dit « Oh, oh, on est en train d'être en danger, on nous met en danger, on va en profiter ». Ça se fait tout à fait naturellement. Eh bien, je dirais que, personnellement, parce que c'est un peu... moi qui ai redécouvert, mais après on a été suivi hein, évidemment, mais qui ai redécouvert l'endroit et qui l'ai fait connaître, ma première attitude, ça a été de dire ouais, je vais en profiter, on va faire des méga fêtes comme à Berlin. Voilà, ça a été une réaction très anthropocentrée sans doute, festive. Et puis j'ai appris un ou deux mois après, parce que on commençait à en parler, j'ai rencontré un naturaliste qui lui m'a expliqué la richesse de ce lieu. Donc je suis passée de quelque chose de autocentré ou anthropocentré à une ouverture, un émerveillement vers ce vivant qui était là et que par ailleurs je ne connaissais pas du tout, moi, en fait. Je m'intéressais un peu à l'écologie, mais pas plus que ça. Mais je veux dire, je pouvais pas reconnaître. Je suis comme les gens actuellement quand ils viennent au marais. C'est tout des canards. Et il n'y a pas un seul canard, en réalité. Donc, ce qui a été important après, c'était de mettre des noms et d'apprendre, de transmettre aussi. Je crois que la transmission, elle a beaucoup changé. Et donc, de quelque chose de beau, parce que au fait... C'est déjà beau et c'est déjà important, un paysage. Ça fait du bien dans une ville, surtout un plan d'eau, parce qu'on respire pour la santé, c'est mental, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'était bon pour l'environnement et la biodiversité, bon parce que c'est un bassin de rétention d'eau qui en fait fonctionne gratuitement. On n'a rien fait pendant 10 ans et il fonctionne excessivement bien. Un peu plus haut, on voulait faire un bassin d'orage qui coûte une blinde et qui abîme, qui est bétonné et qui est beaucoup moins efficace. Voilà. Alors, on s'est battu. Est-ce que c'est au nom de la biodiversité et aussi au nom, finalement, des habitants aux alentours qui souffrent de manque de verre, de manque d'espace ouvert et d'inondations? Donc, je pense qu'on a fait un melting pot. Enfin, on s'est battu pour tous les vivants vivant, humain ou non humain. En gros, c'est ça. Ça va comme réponse.
Merci. Tu te rappelles un peu de ma question, enfin, je te la répète
rapidement, oui, je veux bien.
En gros, quand vous avez rencontré le lieu, comment il se comportait déjà par lui-même et comment vous êtes rentré en relation avec ce lieu qui se comportait déjà par lui-même?
Merci. Bonsoir déjà. Juste avant de commencer, je voulais juste dire que je parle en mon nom, pas au nom du reste de la lutte qui continue par ailleurs sur place. Donc voilà, comme toute parole, elle est située, mais sur des luttes, c'est toujours. Enfin, moi, je trouve ça important de le rappeler que c'est pas une parole qui prétend saisir toutes les voix humaines ou non humaines qui s'expriment depuis là-bas et qu'on luttait et qui luttent encore là-bas. Ceci dit, pour répondre à ta question, Léna, en fait, le moment où on est arrivé à Mardier, c'était un moment où la lutte avait déjà plus d'une dizaine d'années. C'est un vieux projet, ce contournement routier, comme beaucoup de gros projets pourris. Ça ressort régulièrement des cartons parce qu'ils disent « Ah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah oui, tiens, il y a ça. » Et donc, en fait, c'est vraiment un projet qui date de la fin des années 80, qui a des justifications qui changent à chaque fois. Alors, à un moment, on va se dire « Oui, c'est pour faire un grand contournement d'Orléans. » Et puis après, on va dire « Non, c'est pour désenclaver le petit village à côté et pour, du coup, trouver des soutiens locaux. » Donc, nous, au moment où on est arrivé, la lutte, elle avait déjà une histoire, elle avait déjà une association historique qui s'appelle Mardiéval et qui avait mis en place pas mal de choses. Donc on a hérité de toute une série de questions. Et nous-mêmes, on arrivait avec une certaine philosophie politique, certaines pratiques militantes, et notamment le fait que c'était à la fin de l'année 2018, donc on était un peu au moment mouvement climat, gilets jaunes, et avec l'envie de faire un peu, et l'hypothèse ZAD aussi en tête, et donc l'envie de faire un petit peu dialoguer tout ça dans un lieu qui est pas connu pour avoir un rapport de force, une conflictualité très forte. Orléans, c'est quand même un peu bourgeois, voire même franchement bourgeois, donc c'est pas Saint-Nazaire, quoi. Et donc on est arrivé avec cette idée d'essayer de transformer les pratiques de lutte, d'apporter d'autres choses. Et du point de vue de l'endroit auquel on a commencé à s'intéresser, donc c'était un bois qui est un bois alluvial, donc c'est pas la partie de forêt qui se trouve directement en rive de Loire. C'est ce qui est juste derrière, en bord de Loire, on appelle ça la ripissive. Là, c'est juste derrière, donc c'est des forêts qui sont inondées régulièrement, mais qui sont pas directement sur les berges, et qui devaient être déboisées dans les mois qui suivaient. Il se trouve que dans cette forêt, l'association avait invité un couple de balbuzards pêcheurs, qui sont donc des grands rapaces qui sont encore extrêmement rares. Ils sont un peu revenus, mais ils restent extrêmement rares, puisqu'ils dépendent de beaucoup de ressources de poissons, et puis surtout d'une interaction entre des habitats forestiers et des habitats fluviaux. Donc il faut vraiment de la forêt proche des fleuves pour que les balbuzards s'y installent. Et là, il s'avérait que, juste à côté du tracé, à l'invitation de cette association qui avait placé une plateforme, comme ça se fait parfois, pour inviter les rapaces à venir nicher, un couple s'était installé depuis plusieurs années avec des nidifications réussies depuis un moment. Et puis un dispositif assez marrant. Alors il y avait des gens qui trouvaient ça cybernétique et je sais pas quoi, et genre observation permanente, sécuritaire, parce qu'il y a une caméra qui filme ces couples en train de nicher en permanence. Donc ça s'appelle Balbucam, je crois que ça doit exister encore, voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent, c'est sur YouTube. Donc c'est à la fois, voilà, il y avait cette critique-là, et en même temps il y avait cette idée de se dire aussi que c'était un dispositif de mise en lien avec du vivant, avec des manières d'habiter qui étaient aussi assez prodigieux. Donc on avait ça, et on héritait de ce que cette présence du balbuzard impliquait par rapport au calendrier des travaux. Et d'emblée, vu qu'on arrivait aussi assez tard dans le projet, avec une menace sinon immédiate, en tout cas très proche, avec un calendrier qui était, et ça c'était assez fascinant, pour des raisons de droit de l'environnement et de protection des espèces, déterminées par les vivants en présence. Donc ils ne résistaient pas directement, c'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas, peut-être comme une inondation ou comme de l'eau qui surgit d'un seul coup et qui là vient mettre une barrière presque physique, enfin, en tout cas qui vient entraver la progression des travaux. Là, c'était plutôt une barrière par le truchement du droit, qui sait que ben, sur les calendriers dont on avait réussi à avoir connaissance, on savait que le département du Loiret, puisque c'est un projet public, hein, donc c'est porté exclusivement par le département du Loiret, ne pouvait pas déboiser lorsque le balbuzard était présent, pour pas les déranger, parce que c'est une espèce vraiment protégée au titre de plusieurs textes juridiques. Donc ils ne pouvaient pas intervenir avant la fin du mois de septembre, et qu'à partir du mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, c'était des chauves-souris arboricoles, qui, notamment des grands murins, et puis toute une cohorte de chiroptères, là aussi, qui sont arboricoles, mais qui ont besoin de se nourrir sur les fleuves, et qui, pour hiberner, se mettent dans les arbres creux ou sous l'écorce des arbres. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est des espèces aussi protégées, et que ça voulait dire couper un arbre, ça voulait dire les détruire, ce qui est illégal. Ce qui peut même pas faire l'objet de dérogation, puisqu'il n'y a pas de réduction des impacts, quoi. Donc on héritait, voilà, d'un timing, d'une temporalité de la destruction, parce que ça restait quand même une perspective de destruction de la forêt, mais avec cette composition un peu typique du droit de l'environnement, c'est-à-dire avec des protections apparemment fortes, mais en même temps des dérogations permanentes. Et donc on s'est dit que notre manière de nous insérer dans ce tempo hyper hybride, parce que c'est à la fois un tempo de la vie vécue des vivants sur ce lieu-là, puisque c'est vraiment le balbuzard, il niche là parce que il vient là et ensuite il repart en Afrique pour passer l'hiver, et les chauves-souris, c'est pareil, c'est vraiment leur rythme propre, et en même temps la manière dont tout ça est digéré par un pouvoir administratif et des formules juridiques qui en donnent qui en sort ce calendrier où on se dit bah juste on a deux mois pour tout péter. Et nous, notre manière de se rapporter à ça, ça a été de se dire ben on va essayer, en l'occurrence on n'a pas réussi, on va essayer d'être les gardiens de cette forêt au moment où les non-humains ne peuvent pas le faire. Et donc on va essayer de tenir au mois de septembre, au mois d'octobre, en attendant que après le départ du balbuzard et en attendant que les chauves-souris reviennent. Donc on s'est vraiment raconté, on a vraiment essayé de penser stratégiquement la lutte comme un relais qui était le moment où les humains étaient nécessaires pour protéger les bois. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est un début.
Si, c'est très bien. Moi, je voulais en fait, je vais vous poser encore deux questions chacun, mais j'ai l'impression que ça vaut le coup de continuer, avec ton récit. Justement, tu as expliqué comment le rapport aux espèces protégées était important dans ce que vous avez réussi à faire dans cette lutte. En tout cas, ce que vous avez
essayé,
mis en place.
De réussir à faire.
En fait, je voulais juste que tu essayes de raconter ce que cette guérilla juridique a ajouté à la lutte, d'une part en termes d'expérience, de relation au lieu, et d'autre part en termes, disons, de potentiel tactique, même si ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais ça te parle.
Alors, ouais, donc moi je me suis beaucoup occupé des questions juridiques. Donc on a travaillé avec un camarade avocat militant qui a aussi travaillé avec d'autres luttes, notamment aux Lentillères, à Bure aussi, enfin voilà, qui s'appelle Samuel de Lalande, si jamais ça vous savez. Et donc on a travaillé vraiment de façon la plus collective possible, et en essayant de mobiliser toutes les ressources de ce qui se passait sur place et du droit. Et effectivement, on est vraiment arrivé avec cette image un peu tutélaire du balbuzard, parce qu'en plus, c'est un grand rapace, donc c'est quand même, et puis assez emblématique de la Loire et des forêts alluviales, quoi, comme je le disais. Et de peu à peu, on s'est mis à s'intéresser, parce qu'on occupait la forêt, qu'on vivait là-bas, forcément par l'expérience quotidienne, même si ça a duré très peu de temps, hein, c'est tout ça, enfin, on s'est assez vite pris une grosse répression dans la tronche, mais sur ce temps très court, qui est quand même très dense, du coup, en termes d'expérience, on s'est mis progressivement à s'intéresser aussi à tous les autres vivants qui habitaient là, et pour les questions de tactique juridique, effectivement, ça a énormément transformé en fait la manière de se rapporter à ceux dont on, comment dire ça, à ceux dont on essayait de porter la présence. Parce que si vous voulez, un des problèmes en droit de l'environnement comme ailleurs, c'est la preuve. Et la question de la preuve, elle est extrêmement complexe avec des oiseaux, par exemple, qui peuvent être de passage, qui peuvent être extrêmement discrets. Et on peut amener des photos, mais si vous amenez des photos devant un ou une juge administratif, vous dire bon bah qu'est-ce qui me dit que vous l'avez bien pris là, sachant que ça c'est la spécificité du droit administratif en France, l'État est toujours présumé de bonne foi, la charge de la preuve incombe aux opposants. Donc c'est à nous d'apporter vraiment des choses, des éléments probatoires très forts. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, mais ok, donc les oiseaux, sachant que c'était un endroit où il y avait énormément d'oiseaux, pour une petite anecdote, au moment où, puisqu'il y a eu déboisement, qu'on n'a pas réussi à protéger cette forêt, au moment du déboisement, au moment où ils ont coupé le dernier arbre, où les derniers camarades sont descendus des arbres, il y a un circaet de Jean Leblanc, qui a un grand rapace, dont on avait martelé au tribunal, dont on avait martelé auprès des écologues officiels qu'il était là, dont toutes les études d'impact nous disaient qu'il n'était pas là, qui a survolé la trouée au-dessus des flics. Mais on avait beau avoir les gendarmes là, c'est pas les gendarmes qui allaient nous dire « Ah, regardez, il y a un circuit, on arrête tout, ça marche pas comme ça ». Donc notre problème, ça a été de se dire comment on est capable de se relier à des vivants, non pas parce que... ils nous touchent ou parce que ils nous paraissent particulièrement fragiles ou tout ce genre de considérations, mais simplement parce que on va pouvoir parler pour eux devant des tribunaux. Et ça a été vraiment un critère hyper important, ce qui nous a amené à essayer notamment de... Alors ça fait des trucs un peu bizarres, quoi, parce que du coup le droit de l'environnement il porte beaucoup sur les espèces protégées et c'est sur cette capacité à prouver leur présence. Donc on a essayé des trucs, sachant qu'on avait peu de temps. On a essayé de trouver des crottes de muscardin à quatre pattes dans les forêts. On a essayé de trouver des plantes protégées, parce que l'idée qui peut servir, qu'on a eue, c'est que les plantes protégées, ça peut faire l'objet d'un constat d'huissier. Vous pouvez venir avec un botaniste, un huissier, ça coûte un peu de thunes, mais ça va encore. Plus, ça coûte moins de thunes, disons, que d'emmener un huissier faire des affûts avec vous pour des oiseaux, quoi. Sachant que vous savez même pas si vous allez en voir. Là, vous dites, ok, on a cette plante-là, venez faire un constat, et ça sera recevable devant un tribunal. Donc, il y a vraiment cette bizarrerie, quoi, qu'impose le droit de trouver des formes de traduction comme ça entre la présence et la preuve. Et l'autre présence qui a été assez déterminante et dont on a essayé de faire quelque chose, c'était la question des zones humides. Puisque là, ça, c'est une présence qui passe par, là aussi, de la végétation et puis des inventaires, enfin des carottages. Une zone humide, du coup, c'est une zone dans laquelle l'eau stagne et laisse des traces d'oxydation dans le sol. Donc si vous faites une carotte, vous allez avoir des traces rouges ou des traces bleues. Les éléments ferriques dans le sol vont s'oxyder. Ou se réduire, d'ailleurs. Enfin, bon, vous avez des éléments comme ça qui peuvent faire l'objet, là aussi, d'un constat d'huissier, ce qu'on a fait. Et du coup, ça, c'est vrai que ça a énormément transformé la manière de nous relier à la forêt. Et par exemple, la question des zones humides, qui était complètement absente au départ, est devenue un élément extrêmement fort pour nos sensibilités et nos représentations, et ceux avec qui on avait l'impression de lutter. C'est-à-dire qu'on était aussi en train d'essayer de nous-mêmes comprendre ce qu'on était en train de faire et s'en faire un récit quelque part. Et c'est vrai que je sais que notamment pour les copines féministes, ça leur a parlé, cette histoire de défendre les zones humides. Il y a eu tout un récit écoféministe qui s'est tissé autour de ça. Et en fait, on est finalement le balbuzard qui était au départ celui avec qui on a eu l'impression de se lier le plus fort, parce qu'il était juste évident que, d'un point de vue de la manière dont il était susceptible de nous aider à défendre sa propre présence là, et ben c'était pas le plus il était presque trop visible quelque part. Parce que c'est le, évidemment, en fait, le département ne pouvait pas l'ignorer, donc ils se sont dit, en fait, c'est le seul oiseau pour lequel on va faire une déclaration de destruction d'espèces. Mais du coup, ça a été un peu l'oiseau qui a caché la cohorte derrière lui. Et donc, on en est venu à pister, à traquer des présences beaucoup plus discrètes, beaucoup plus liminaire, quoi, beaucoup plus dans les interstices, et j'ai un peu perdu le fil dans le flow du truc, mais ça répond à ce que tu je crois un peu. Cool.
Donc on voit qu'il y a dans le rapport entre la dimension écologique d'un lieu et sa traduction en statut juridique, etc., il y a tout un jeu de différences, mais aussi du coup qui amène à des potentielles actions. Et Omar et Wills, moi, je voulais te relancer sur justement une histoire de statut. C'est que il semble qu'il y ait dans cette bataille autour du Marie Wills quelque chose qui apparaît comme une bataille de une querelle de mots, et qui est autour de est-ce que c'est une flaque, une inondation, ou un marais, ou un habitat, etc. Et je voulais simplement te proposer de raconter, par exemple, quels éléments ont pu faire valoir pour un premier temps que ça pouvait être un marais, et aussi peut-être de me dire... quels enjeux tu vois sous cette bataille de mots, quels enjeux de querelles qui sont plus en fait entre des visions du monde, mais aussi entre des intentions de type d'usage. Est-ce que ça te parle comme question ?
Oui, ça va. je vais d'abord préciser que ce n'est pas un marais. On va y aller déjà comme ça, en supprimant. Donc ce marais Wills n'est pas un marais. Ça... Simplement, c'est que le naturaliste qui, en 2015, avait fait un relevé, avait constaté que la biodiversité qui correspondait à ce site était une biodiversité très similaire à celle d'un marais. Et donc, lui-même l'avait appelé le marais du Wills, nom d'une bière des brasseries Willemans-Köppens, et par ailleurs, nom d'un centre d'art contemporain juste à côté. Au départ, on l'avait appelé d'ailleurs forêt-plage, mais ça n'a pas du tout plu parce qu'on a, il a été complètement barricadé parce que les gens ont eu peur que des gens y nagent. Alors on est vite passé à Marais Wills. Donc, mais le fait de le nommer, par contre, ça a beaucoup aidé parce qu'évidemment, il commençait à avoir une personnalité. Alors pas une personnalité juridique, mais voilà, les gens commençaient à se dire tiens, Marais Wills, c'est quoi, est-ce qu'il faut venir en botte ? Mais en fait, non, il faut pas venir en botte. Il y a de l'eau qui monte et qui descend, mais on ne marche pas dans l'eau normalement. Bref, alors la flaque. Bon, ça, c'était eux qui étaient plutôt dénigrants, je veux dire, les propriétaires. Donc, on va aussi éliminer cela. Alors, on en est à... Il reste plan d'eau de fait ou plan d'eau de droit. Pour le moment, c'est pas très clair. Il faut... Pour continuer l'histoire, je dois quand même vous dire que ça a été quand même un petit succès, puisque pendant la pandémie, la région a acheté le site pour valoriser ce... Alors, ils ont du mal dans les communiqués de presse à dire plan d'eau, donc voilà, c'est soit plan d'eau entre guillemets ou Marais Wills, comme l'appellent les habitants. Donc, valoriser ce plan d'eau et en faire un projet pilote de gestion intégrée des eaux de pluie. Et par ailleurs, pour construire également 80 appartements. Alors, pour eux, le plan d'eau, c'est pas très clair, la superficie. Pour eux, c'est juste la surface de l'eau, mais on peut quand même diminuer. Comme on considère les arbres en mobilier urbain, eh bien, ce plan d'eau, bah, on va prendre une grande partie, quoi. Mais au fait, pour nous, et d'ailleurs pour tous les scientifiques, botanistes, etc. Les abords du marais sont aussi riches, évidemment, donc les roselières, etc. Et c'est là que ça les gêne un peu de dire que tout ça est un plan d'eau, parce qu'il existe une réglementation ou un point de réglementation qui dit qu'on ne peut pas réduire les surfaces d'eau de moins à partir du moment où un plan d'eau a une surface d'eau de plus de 100 mètres carrés, on ne peut pas la réduire et la mettre en danger. Donc ça voudrait dire qu'il ne pourrait plus construire à cet endroit. Et voilà. Alors pour le moment, c'est pas considéré comme un plan d'eau parce que la ville a un atlas biologique, enfin la région a un atlas qui relève les rivières, les plans d'eau, etc. Et il n'y est pas encore, fatalement, puisque c'était une flaque avant. Donc, et il faudrait aussi changer le plan régional d'affectation du sol. Et ça, c'est politique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une pression politique de certains partis pour le mettre en discussion. Et ça, c'est pour dans... on peut espérer dans 2 ans, parce qu'il y a tout un processus à suivre. Et donc là, on se trouve face à une situation où c'est pas encore reconnu comme plan d'eau, et donc même si c'est racheté, c'est pas protégé. C'est politiquement protégé, du moins une partie du plan, mais le reste ne l'est pas. Alors là, à ce moment-là, on va avoir. Jusqu'ici, on n'a pas vraiment, on a utilisé des arguments juridiques, mais on n'est pas allé devant le tribunal ou ce genre de choses. Mais on ira jusqu'au bout et on va montrer que dans la situation de fait, c'est un plan d'eau. Donc voilà, là à ce moment-là, il faudra agir. Mais il y avait une autre question, non ? Alors oui, alors notre question, c'est de savoir par rapport aux vivants, c'est-à-dire que pour le moment, il faut savoir qu'une roselière ou un plan d'eau pareil, si on le laisse en libre évolution, ça devient dans 70 ans une forêt. Donc on aurait une forêt toute faite, on n'a pas besoin d'aller mettre une tiny ou une tiny forest complètement artificielle, on l'aurait. Mais évidemment, dans notre démarche, si on veut montrer que c'est un plan d'eau, on n'a pas intérêt que la surface s'atterrisse, comme on dit, je crois. Et donc, pour le moment, dans les roseaux, il y a des saules, parce que ce sont les premiers arbres qui ont besoin d'eau et qui viennent s'installer là. Donc, on appelle ça une saulée, qui est en train de pomper assez bien l'eau dans les roseaux. Et si on laisse faire, il va y avoir une création d'humus, et puis un autre arbre va venir, etc. Et donc, pour le moment, en catimini... mais vous ne le répéterez pas, hein. On va scier des saules pour que la roselière soit maintenue et qu'on prouve bien que c'est de l'eau. Et donc là, c'est vraiment, on se demande, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce que c'est pas mieux la libre évolution ? Les saules, c'est bien pour les abeilles, etc. Parce que ce sont les premiers à fleurir. Enfin, moi, je répète bêtement tout ce que je lis, je m'y connais pas, mais ce sont les premiers à fleurir, donc ils nourrissent les abeilles sauvages et... Voilà. Et donc, voilà, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on utilise le vivant et quel vivant utilise-t-on pour nous aider. Et au-delà de ça, ce plan d'eau est utile aussi en tant que plan d'eau et de bassin de rétention d'eau. Et on veut, la région vraisemblablement voudrait en faire un bassin qui récolterait, en plus d'être de la rétention d'eau, qui récolterait les eaux de ruissellement, avec le problème que il risque d'y avoir quand même une pollution et qu'ils utiliseraient le vivant pour nettoyer, enfin pour dépolluer tout ça. Alors on se demande si voilà, ça pourrait aussi mettre en danger le vivant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réduire le nombre de voitures, par exemple, plutôt que voilà, plutôt que d'utiliser les plantes pour nettoyer le frottement du caoutchouc sur le macadam.
Je fais juste une petite parenthèse à propos de ces histoires de plans d'eau pour évoquer une lutte qui se passe en ce moment en France, plus proche, du coup, peut-être plus facile, enfin, que vous avez peut-être entendu parler du mouvement cet automne contre les méga-bassines. Donc là, c'est la FNSEA, en l'occurrence, qui défend des plans d'eau artificiels de plusieurs hectares qui construisent donc des espèces de
d'énormes piscines de plusieurs hectares qui construisent pour ensuite avoir de l'eau pour faire des irrigations de monoculture, de maïs, etc. Et en soi, projet déjà discutable, mais en plus, en fait, ces méga-bassines qui sont supposées récolter l'eau de pluie officiellement, en fait, ils pompent l'eau des nappes phréatiques sous terre pour mettre l'eau à l'air libre dans ces méga-bassines pour ensuite irriguer. Et donc c'est du point de vue de ce qui est des dégâts qui sont faits aux aquifères, aux nappes phréatiques, aux ruisseaux en aval, etc. C'est très net, quoi. Et je vous invite à vous renseigner sur cette lutte qui a cours en ce moment. C'est très intéressant. Et pour le coup, ce serait intéressant de voir comment ils appellent ces bassines, est-ce qu'ils appellent ça des plans d'eau de fête ou des plans d'eau de droit. Mais effectivement, donc là, on a pas mal discuté de finalement des dimensions juridiques de la lutte. Et mais c'est encore, enfin là, ce dont on a parlé, c'est de dimensions juridiques qui arrivent presque un peu trop tard, au moment où les lieux sont déjà en péril et où on est toujours un peu à court de temps pour monter des dossiers, etc. Avant que les travaux se fassent, etc. Et du coup, la question se pose, à vrai dire, c'est Alan qui nous a suggéré cette question dans une discussion précédente, mais de la question de comment on pourrait anticiper des alliances avec ces lieux et ces vivants avant qu'ils ne soient en péril. Donc finalement, c'est une question que je te repose. Est-ce qu'on peut l'anticiper par un travail sur le droit, un travail créatif sur le droit et pas seulement d'utiliser le droit qui est déjà là? Est-ce que ça peut être éventuellement par la notion de personnalité juridique, si tu veux t'exprimer là-dessus, je sais pas. Ou bien est-ce que ça peut aussi être par d'autres démarches de mise en place, de connaissance et de relations avec ces lieux, une sorte de création d'un contexte favorable, de la même manière que tu disais que le contexte social et politique n'était pas forcément très favorable à Orléans par rapport à, par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui était insérée dans un tissu social et politique qui avait un héritage déjà de lutte, etc., avec Saint-Nazaire et tout. On peut aussi se poser la question de comment on anticipe la défense des lieux en construisant une culture du vivant en amont, quoi. Et pour finir ma question, voilà, est-ce que anticiper des alliances, ça, est-ce que pour toi anticiper des alliances, c'est ce que je viens de dire là, ou est-ce que c'est encore autre chose, quoi? Est-ce que c'est-à-dire travailler sur un contexte, ou c'est encore autre chose?
Alors c'est hyper vaste, mais effectivement, donc ping-pong du coup, puisque je vous l'avais posé à un séminaire cette question, mais ouais, en fait, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est sur les luttes telles qu'on les mène actuellement. Sur comment on anticipe la défense des milieux. Et donc je vais déjà commencer à parler de ça et ensuite de l'autre aspect qui est comment on mène d'autres luttes que des luttes de défense. Spoiler, j'ai pas la réponse, mais comment on défend mieux les lieux que ce qu'on fait actuellement. En fait, c'est vrai que nous, au village de la Loire, on a été, comme je vous le disais, dans un calendrier hyper dans l'urgence, quoi. Tout le temps, on courait tout le temps après le temps. Par définition, les porteurs de projets, puisque c'est eux qui décident du calendrier, on se fait dicter notre rythme par nos ennemis, c'est quand même jamais très agréable. Et ce qui est surtout, ce qui met aussi, voilà, dans une pression, dans un degré de stress, de fragilité qui est pas à négliger. Les burn-out, c'est pas qu'à la défense, c'est aussi sur les ZAD. Il y a plein de gens aussi qui ont dans les milieux militants pour qui c'est extrêmement dur tout ça. Donc comment on peut essayer de penser nos alliances avec les vivants, pas seulement dans l'urgence, mais aussi en amont. Moi, je vois deux choses. La première, c'est de se dire qu'il n'y a pas de statu quo et que tous les milieux sont à défendre, ou sont potentiellement à défendre. C'est pas tout à fait ZAD partout, c'est ZAD peut-être. C'est-à-dire que moi, ce que ça m'a fait aussi d'assister au déboisement de ces hectares de forêt qu'on a essayé de défendre, je me souviens d'une anecdote, mais qui est pas si anecdotique, c'est qu'il y a le matin, quand on est arrivé pour essayer de, nous on y était déjà, mais quand les amis et camarades sont arrivés pour essayer de nous aider à bloquer, mais qu'on a vu qu'il y avait 80 flics antiterroristes, donc ils étaient plus nombreux que nous, littéralement. Donc, il y a un cycliste qui est passé devant cette forêt le matin, avant qu'elle se fasse déboiser. On le voyait s'interroger un petit peu sur pourquoi il y avait du monde, mais il n'a pas du tout percuté, il se baladait, c'était la forêt, c'était joli. Il est revenu le soir, il y avait une trouée de plusieurs dizaines, de 12 hectares au milieu de la forêt. Donc pour lui, dans sa tête, ce milieu-là, c'était une forêt, ça devait rester une forêt, je ne sais pas comment dire. Et moi, cette prise de conscience-là, je me suis dit, c'est à la fois hyper dur, parce que je ne fais plus jamais confiance à l'état d'un milieu, c'est-à-dire que tout ce que je vois, je me dis, demain, en fait, ça ne sera peut-être plus là. Donc c'est un peu lourd à porter, mais en même temps, ça, j'ai l'impression que ça fait aussi c'est pas d'illusion sur qui on a en face et ce à quoi ils sont prêts pour continuer à accumuler du capital et à aménager tout, quoi. Donc ça veut dire que on peut considérer n'importe quel endroit comme potentiellement un lieu qui va être à défendre plus tard. Et ça veut dire, et là je pense à ce que tu disais sur les inventaires naturalistes, et moi je suis aussi naturaliste, donc du coup je me prêche en tant que convaincu de ce que je vais dire, mais quand tu disais que il y a eu un inventaire pendant ces 10 années où le lieu a pas été menacé, en fait c'est précieux, ça change tout. Ça change tout parce qu'à un moment, on sait qui est là, on sait qui habite là, on sait pourquoi on y tient aussi intimement, affectivement, et on sait aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le défendre devant le tribunal ou ailleurs. Et ce temps gagné là, il est hyper précieux. Donc moi, je me dis qu'une des manières de faire culture du vivant, de répondre à la culture, cette philosophie du vivant, cette sensibilité, cette crise de la sensibilité au vivant, c'est de se faire toutes et toutes un peu naturaliste, en tout cas d'essayer d'acquérir ces savoirs-là et de faire des inventaires et de les noter et de se le mettre en lien avec des assos naturalistes. Il y en a plein. Ça servira peut-être pas tout de suite, mais en fait, j'ai l'impression que c'est déjà aussi des manières de préparer des défenses de milieux un petit peu partout. Moi, ça, c'est un premier truc. Il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est une première manière que je vois de préparer, d'anticiper les alliances. La deuxième, dans cette perspective-là, c'est aussi d'avoir des usages et d'essayer de tisser des communs autour de ces milieux-là. Alors, je prends un exemple d'amis qui sont en Bretagne et qui font de la cueillette, qui sont maraîchers et cueilleurs de plantes sauvages, et pour essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent et tissent des liens. Et aussi parce que évidemment on défend mieux que ce à quoi on est attaché. On commençait à faire des cueillettes pour faire une tisane communale. Donc avec les gens du village, ils se sont mis à parcourir les haies bocagères qui ont été replantées il y a pas longtemps dans le cadre de programmes européens. Et donc c'est des haies vives, des belles haies bretonnes comme il y en a vachement moins depuis le remembrement. Et en se faisant donc avec cette tisane communale, du coup ils se disent que si un jour ces haies venaient à être menacées, les gens qui ont cueilli, qui ont bu les plantes seraient beaucoup plus à même aussi de se mobiliser pour les défendre. Une autre piste stratégique que je trouve assez chouette de la tisane communale. Et l'autre aspect, je disais ça c'est la partie défense, mais moi j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir toujours connu comme type de victoire que des victoires défensives. En gros, je sais pas, que ce soit syndical, écologique, dans tous les domaines, 95 contre les réformes Juppé, 2006 CPE, la ZAD contre l'aéroport, Roibon contre le Center Park sur les zones humides en Isère, toutes les et j'en passe, Europa City. Mais c'est toujours des défenses, quoi. C'est toujours on veut nous pourrir des milieux et finalement on arrive à préserver le fait qu'ils vont pas être détruits. Et je me dis aussi peut-être une autre question, un autre front, ça serait de se demander comment on arrive à penser des luttes offensives, des luttes qui soient pas seulement tout ce qu'on a, nos résistances ou nos fuites, quoi, lutter contre des destructions ou essayer d'inventer autre chose que le capitalisme à l'extérieur du capitalisme, c'est hyper précieux, mais c'est pas suffisant. Et là, vraiment, je n'ai pas de réponse, mais je me demande comment on pourrait aussi essayer de repenser un mouvement social qui soit pas celui que j'ai toujours connu, c'est-à-dire un mouvement social replié sur le fait de ne pas tout perdre. Et là, moi, j'ai l'impression que toutes nos mobilisations, l'affect qui est premier, c'est celui d'essayer de ne pas tout perdre. Et comment on arrive, là aussi, en se reliant à d'autres vivants, essayer de gagner du terrain, essayer de retrouver des endroits où on peut inventer ces relations aux vivants sans être toujours sur la brèche, quoi. Donc, avis à la tempête de cerveau collective pour trouver des manières d'être offensif.
Il y aurait peut-être lutter contre l'indifférence, c'est-à-dire par exemple la chance qu'on avait, c'est que avant de lutter contre la construction sur ce plan d'eau, comme il y avait quand même pas mal d'inondations ou simplement des problèmes liés à l'eau, on a quand même participé préalablement à des marches exploratoires pour comprendre où va l'eau et comment faire de la gestion intégrée de l'eau de pluie, sans savoir qu'on allait devoir se battre après pour le marais. C'est un autre. C'est être engagé, à mon avis, assez rapidement et dans l'humour ou dans le plaisir, essayer que les enfants ou que tout le monde soit engagé au fait. Et c'est ça que je dis, lutter contre l'indifférence, parce que mais même au niveau social, quoi, au fait. On va aider quelqu'un qui fait une grève de la faim, mais peut-être qu'on l'aidera pas avant. Enfin voilà, c'est un peu souvent comme ça finalement. C'était une idée comme ça. Et puis par ailleurs, oui, en effet, quand tu parles de naturaliste et recensé, c'est aussi il y a tellement d'autres choses dans l'eau, plein de choses qu'on ne connaît pas. Et alors j'avais une question, comment ça se fait que les biologistes ou des universitaires ne sont pas venus, ils n'ont pas eu le temps de venir relever la nature?
Alors alors nous on a fait ce travail, y avait des naturalistes qui étaient là depuis longtemps, qui ont fait des inventaires, mais encore une fois il y avait cette question de la preuve, c'est-à-dire qu'on avait un inventaire des oiseaux. En face on avait l'inventaire du bureau d'études qui était Biotope, qui est un bureau d'études qui est mandaté par à peu près tous les gros porteurs de projets, par ailleurs qui a des super naturalistes, mais en fait à un moment si on est bureau d'études, si on veut avoir des clients, faut pas dire qu'il y a trop d'espèces dans les milieux, parce que sinon au bout d'un moment si on dit ce qu'il y a vraiment, plus personne vous embauche. Et du coup, il y a eu ça. Et alors, on a eu un autre problème. C'est aussi par rapport à Biotope. C'est qu'on a demandé à des universitaires au moment des recours juridiques sur les dossiers espèces protégées, des biologistes, je vais pas les citer, mais du coup, de leur demander d'attester que les études avaient été mal faites, notamment les calendriers, puisque c'était vraiment n'importe quoi. Ils étaient venus voir les rapaces au moment où ils nichaient pas. Enfin, il y avait vraiment des trucs dans les calendriers qui étaient absurdes. Et ils ont dit oui, bien sûr, c'est absurde scientifiquement. Et quand on leur a dit que c'était Biotope qui faisait les trucs, ils ont dit ah, ouais, alors en fait, on met tous nos étudiants de master en stage chez Biotope, donc désolé, mais on va pas pouvoir. Donc on a eu aussi ce type de conflit d'intérêts qui en dit long aussi sur ce que c'est que le milieu, enfin les complexités en fait des milieux naturalistes, où il y a plein de gens qui se lancent là-dedans avec passion et qui, pour trouver du taf, sont obligés de faire de la merde pour le capital, quoi. Donc ça fait un peu chier, mais d'où l'importance d'avoir des naturalistes en lutte partout, même là où il y a pas de lutte, je crois.
Oui. Et peut-être une autre. Moi, j'étais toujours étonnée. On est près d'un centre d'art contemporain, et au fait, je suis toujours. Je pense qu'il y a une telle. On a fait un tel clivage entre la culture et la nature que tout le monde reconnaît un. Bon, allez, je vais aller dans le gros, un Van Gogh, d'un Rietveld, etc. Mais différencier un Pipit Farlouze avec un un Grèbe Castagneux, n'importe quoi, ou un Pipit des arbres. Bon, là, ça devient très précis. Mais je veux dire, il y a un désintérêt qui a existé pourtant, mais il y a un désintérêt pour la nature qu'on a sorti de la culture. Enfin, en tout cas, oui. Je sais pas. Au fait, l'art, maintenant, c'est Ça a un prix. J'imagine peut-être que le pipi de Farlouze, il n'a pas de prix. Enfin, voilà. De valeur, plutôt.
Sur le temps passe, et ça serait chouette qu'on puisse prendre un peu vos questions, vos remarques, tout ça. Et juste avant de le faire, je voulais, Geneviève, justement te relancer sur cette distinction entre nature et culture, au sens où, bien souvent dans ces cas de défense, de protection de milieux naturels en ville, l'argument qui est amené par les aménageurs, c'est « ah bah il faut du logement pour du logement social », et c'est une sorte d'opposition entre ce qui est bien pour le social, l'emploi, le logement, et ce qui est bien pour la nature, qui, soi-disant, ne serait pas compatible avec cette égalité sociale, quoi. Et donc, voilà, comment vous répondez à cette question, cette opposition de la défense du Malheur et Wills à la défense du logement?
On a eu tendance à dire que c'est déjà habité, et on a la chance avec la pandémie de se retrouver avec beaucoup de bureaux vides, l'Union européenne entre autres, mais pas mal de boîtes aussi quittent certains immeubles, et donc là depuis un an, depuis l'annonce du rachat, c'est vrai que c'est un peu, on défendait ça, maintenant on veut ça, on vient de 220 logements, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas construire, mais ça c'était stratégique, et donc maintenant on avance le fait que il y a tellement de logements ou d'immeubles vides que c'est là qu'il faut agir, et que même si ils disent, ou les autorités disent, ou les promoteurs ou les propriétaires disent que ça coûte plus cher de rénover ou de transformer que de construire, je pense qu'il faut prendre en compte les autres frais qui ne sont pas dans leur comptabilité et qui sont l'impact, comment est-ce qu'on appelle ça, le béton, c'est pas uniquement le prix d'achat, il y a le sable, il y a tout le transport, il y a tous les dégâts que ce que ça fait, et donc c'est d'agir aussi et d'aider pour déceler les espaces qui pourraient être transformés, c'est pas faire de la politique, mais pour agir, s'engager aussi dans ce combat-là, c'est un peu le même combat. Et par ailleurs, on est dans un endroit très dense, très imperméabilisé, où ça manque d'espace vert. Donc, construire là, on va se retrouver avec le même problème, qu'on va manquer d'espace vert. Or, ça a été acheté pour offrir de l'espace vert. Donc, c'est lutter aussi pour trouver de l'habitat, mais pas là. C'est difficile, mais et au fait, est-ce que ça en vaut la peine? Il y a sans doute 85 000 besoins de logements, 45 000 de logements sociaux. Voilà, ce sont des chiffres comme ça qui viennent. Mais est-ce que c'est vraiment une chance, ce marais, au fait? Donc ça ne vaut pas la peine de l'abîmer. Il y a moyen pour 80 logements d'aller le mettre ailleurs. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des ajouts, etc.?
J'ai pas retenu le nom de monsieur qui disait que c'est difficile d'imaginer des combats où il n'y a pas de. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il peut y avoir des combats là où il n'y a pas d'urgence, là où il n'y a pas forcément de danger. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir des combats autour. Moi, personnellement, j'ai un projet autour d'une forêt qui est dans un parc national, et je voudrais plutôt montrer qu'on peut avoir une gestion de la forêt qui est à la fois la biodiversité la production de bois pour la construction. Donc ça, et je suis pas sûr, je crois que c'est difficile d'imaginer des mobilisations qui soient pas quelque chose de purement négatif. Est-ce qu'il peut y avoir des mobilisations sur des choses positives, sur des modèles qu'on veut montrer? Quand j'ai cherché des gens qui ont envie de faire ça, comme Canopée, Forêt Vivante, mais j'ai encore besoin d'être rassuré sur le fait que les gens peuvent se mobiliser sur des choses qui ne sont pas en danger.
Bon, nous, on a il faut avoir l'argent, évidemment. On a un acteur, Bouly Lamers, qui a acheté des forêts autour de chez lui, enfin, beaucoup de terrain. Et il le crie haut et fort, il veut juste ne rien faire. Et ce rien, c'est vraiment un combat aussi. Ben, c'est une image, déjà, s'il le dit lui-même, ben, ça peut percoler, parce que vraiment, le rien, c'est pas facile à faire passer. Hein. Pourtant, c'est pas cher.
Ouais, ben, effectivement, sur la question des forêts, il y a plein de choses qui se font. Hein. J'ai été un peu noir tout à l'heure, mais parce que, ben, comme tu dis, ben, sur les questions de libre évolution, il y a ce que fait une association comme l'ASPAS, avec aussi tout le travail de Baptiste Morisot autour de ces questions. Et puis, au niveau des forêts, moi, je pense au RAF, au Réseau des Alternatives Forestières, qui fait un travail génial. Et le RAF a aussi créé un fonds de dotation. Donc ça, c'est un outil juridique assez génial, le fonds de dotation. C'est une manière de sortir de la propriété privée tout en gardant, en restant dans l'état actuel du droit. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça a quand même été créé par Sarkozy et Lagarde, donc pas exactement des gauchistes, pour faire des mini-fondations à la française. Et là, il y a plein de collectifs un peu partout qui sont en train de détourner ça, y compris à la ZAD de NDDL, d'ailleurs, et pour faire de la propriété collective, puisque ça empêche la spéculation et la revente. Et le RAF vient de créer un fonds de dotation qui s'appelle Forêt en Vie, dont le but est aussi de créer du rachat de forêt pour de la futaie jardinée, sylviculture douce, avec cette idée de faire à la fois, et en intégrant justement un objectif de libre évolution. C'est-à-dire que là, ils essayent de tenir, et c'est vraiment passionnant, à la fois ce gradient qui va de l'usage doux et respectueux de la forêt pour produire du bois, pour des filières locales, de charpente, etc. Et en même temps, de laisser, je crois qu'ils sont sur 25% des forêts, faire leur vie et suivre leur dynamique écologique et évolutive jusqu'à sur des très longs termes. Donc sur les forêts, il se passe des choses. Après, c'est vrai que sur les mobilisations, moi, j'avais en tête aussi des choses où en fait, on réclame que des pans du monde dans lequel on vit ne soient plus gérés pour les intérêts du capital, quoi. Et comme ça a pu être fait, je pense en 46, au moment où on a institué la sécurité sociale, ça c'est typiquement des luttes offensives. C'est que d'un coup, il y a toute une partie de la production qui sort de la mainmise du capitalisme. Mais donc peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose de cet ordre pour les forêts ou pour l'agriculture. Il y a le projet de sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu au témoignage question.
Si, je les connais, je les ai rencontrés. Enfin, je suis allé à l'heure. Mais voilà, ils ont pour le moment des moyens quand même assez faibles. C'est sur des petites parcelles. Et pour bien gérer une forêt, il faut vraiment avoir quand même des parcelles relativement importantes. Donc c'est plutôt pour des projets associatifs ou éducatifs. Pour le moment.
Merci. Alors j'ai pensé à une alternative. Enfin, c'est un dispositif qui existe depuis 2016 qui s'appelle les obligations réelles environnementales. Et on peut en gros avoir un terrain et on met un cahier des charges qui doit être respecté pendant 99 ans vis-à-vis de toutes les personnes qui seront locataires de ce terrain-là. Donc ça peut être un instrument foncier pour protéger des espaces. Et j'ai quelques questions. Est-ce que vous avez discuté avec des ZAD, enfin des zones en lutte, pour justement apprendre des différents narratifs qu'ils avaient eux-mêmes expérimentés, un peu du retour qu'ils en avaient eu? Est-ce que, par exemple, je sais que Notre-Dame-des-Landes, au début, ils parlaient beaucoup du triton crêté et ils étaient vraiment sur les espèces. Et peut-être qu'après, ils sont passés sur une vision... en insistant moins sur la valeur intrinsèque, mais peut-être plus sur la valeur relationnelle qu'ils avaient avec la nature, les liens qu'ils avaient tissés sur ce territoire. Donc voilà, est-ce qu'il y a une sorte de forum des ZAD où on discute un peu du répondant d'un narratif voilà.
À propos de ZAD, notre manière, c'était pas d'occuper le terrain, d'y habiter. En fait, alors que c'était encore une propriété privée, avec tous des habitants et des citoyens engagés, on s'est mis à nettoyer le lieu qui était à un certain endroit assez sale, et on a fait énormément tous les dimanches pendant 2019 des séances de nettoyage qu'on appelait des crates parties. Et c'était une force collective mais extraordinaire. C'est vraiment déplacer les montagnes, quoi. Enfin, quand on revoit les images, je dis waouh, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Et au fait, on n'avait aucune machine. On l'avait demandé à la région ou à la commune, mais comme c'était privé, ils ne pouvaient pas mettre de l'argent dedans, ils ne pouvaient pas nettoyer un terrain privé. Et on ne s'est pas laissé... voilà, on l'a fait tous les dimanches à la main. Et c'est peut-être ce qui a sauvé le site, parce que en fait la presse a suivi, les gens ont suivi, il y avait même des Français qui venaient nettoyer. On l'a fait en réalité aussi parce qu'on s'inquiétait pour le vivant non humain, parce que là il y avait des piles, des déchets, enfin des déchets qui pouvaient être toxiques, et donc on les a aidés en quelque sorte, et c'était notre manière d'occuper le lieu, voilà. Je pense qu'il n'y a pas que... Il y a une autre friche à Bruxelles qui s'appelle la friche Josapha. Elle est tellement riche, ça pourrait être une réserve naturelle. C'est pas possible d'aller l'habiter. Ça fera du dégât. Donc, il faut trouver d'autres manières. Et il y a les visites guidées, par exemple, si c'est naturaliste, etc. Mais voilà, habiter n'est pas toujours la bonne solution. Et par ailleurs, je pense que ça n'a pas nécessairement une bonne presse auprès du bourgeois. Hein, on voit que des pétards, enfin voilà, la guitare et le feu de bois, donc ça plaît pas. Et donc voilà, il faut trouver. Enfin, c'est pas qu'il faut trouver, mais ça se sent. Enfin, c'est en fonction de chaque site, je dirais. Voilà.
Et sur la question de ce que tu appelais narratif, c'est-à-dire sur la question de quelle manière on a d'en parler ou de construire un imaginaire autour de ça, je ne sais pas si tu veux répondre. Pendant que tu réfléchis, je peux déjà dire que le Marais Wheel, c'est une super page Facebook qui est déjà un narratif en soi, parce qu'il y a plein de photos. Je pense que les membres, les naturalistes ou les membres du collectif, je ne sais pas, quand ils voient des plantes et des animaux sur place, prennent des photos et les postent sur le site, la page Facebook du Marais Wheel, qui s'appelle Marais Wheel. Cartier Wills,
oui, Marais Wills.
Et c'est, moi j'ai l'impression que c'est un narratif en soi, en tout cas parce que c'est trop beau, quoi. Mais je sais pas si.
Au niveau narratif, nous, avec ces crates parties, déjà c'était toute une narration. On voit qu'on prenait quand même au deuxième degré. Hein. Il faut savoir que les gens disaient des crate parties, parce qu'ils savaient même plus ce que ça voulait dire, et que on s'est surnommé les fées du Marais. Donc c'est déjà les enfants qui viennent, elles sont où les fées? Mais c'est pas elles, parce que c'est fées, F-E.E.S, parce qu'il y avait quand même des hommes aussi qui avaient nettoyé. Donc voilà, on fait tout un... Voilà. On a fait un logo qui est ici. Et au fait, c'est quelqu'un qui avait pas envie de nettoyer. Il a dit, bon, moi je suis graphiste, je vais vous faire un logo. Et le fait de faire un... Et dans mon dos, j'en mets partout maintenant. Hein, voilà. Et donc, le fait de faire un logo, c'était faire un merchandising d'un lieu qui n'existait pas. On a fait des tasses, des cartes postales, etc. Et c'est un peu perturbant, et c'est un peu chouette de perturber les gens, en fait. Ça peut être efficace. Voilà. Il y a même un roman qui est sorti avec le premier chapitre, il se passe au Marais. C'est quand même génial, quoi. C'est tout un imaginaire. En fait, c'est une personne qui vit pendant 5 ans dans cet espace, mais bon, il en a fait un lieu où on peut vivre. Voilà, voilà, il y a plein. Tout le monde intervient à sa manière, en fait. Ça peut être un chanteur, ça peut être. Et voilà, et ils partagent, et c'est leur manière d'agir. Donc, ça, c'est peut-être.
Le roman, c'est Ce qui arrive à pied de Pierre-Yves Bolus à l'Harmattan. Je sais pas si toi, tu veux.
Ouais, peut-être rapidement. Bah, effectivement, t'as les ORE, les obligations réelles environnementales, là, c'est vachement intéressant. Puisqu'en plus ça a subverti le droit de la propriété privée, c'est assez intriguant que ça ait réussi à passer et ça transmet même à d'autres propriétaires, il n'y a pas qu'aux locataires. Après, s'il y a une enquête d'utilité publique et une expropriation, l'ORE elle saute. Mais bon, c'est déjà vachement intéressant. Je suis d'accord avec toi. Sur les interzades, Quoi ? Sur l'imaginaire, oui, c'est ce que ça circule, comment ça circule, oui, c'est ça que je... oui, ça circule parce qu'il y a des gens qui circulent entre les lieux aussi, que même si, je sais pas, moi j'ai pas eu l'impression, il y a des dimensions tactiques dans la production des récits et des imaginaires, mais pas que ça non plus. Et je pense qu'il y a des perspectives aussi. Tu vois, je pense à la ZAD de Nantes. Si tu vas voir Jean-Marie, des naturalistes en lutte, bah, il va pas te dire la même chose que les éleveurs qui vont peut-être te parler plus du bocage. Lui, il va être plus sur. Donc, il y a aussi des points d'entrée dans les. Surtout dans un endroit aussi étendu que la ZAD. Donc, je pense qu'il y a des perspectives comme ça qui peuvent être très différentes à l'intérieur d'un même lieu et qui peuvent faire que parfois les récits qui dominent peuvent pas être ceux dans lesquels se retrouvent certaines personnes qui vivent les choses autrement. Par exemple, je pense que le Triton, je suis pas sûr que, enfin, ça parle un peu à tout le monde, mais il y en a qui vont être vraiment vachement plus Triton que d'autres, quoi. Et après, ouais, ça circule. Nous, la question des zones humides, le roi bon, ça a été vachement important, juridiquement aussi, parce qu'il y a eu des jurisprudences qui ont été liées, mais aussi dans ce qu'ils ont raconté là-bas. En fait, nous, on a essayé aussi de porter quelque chose qui était, et ça, j'en ai pas du tout parlé, donc c'est pour ça que je peut-être tenais à en dire un mot, sur la question des bassins versants, qui a été vraiment hyper importante dans la manière dont on a construit notre manière de lutter et notre manière de nous présenter en lutte, disons, et dans les liens aussi qu'on a pu tisser. Donc c'est cette idée que la circulation des eaux, vu qu'on se bagarrait en plus pour protéger un bout de Loire et de rive de Loire, que les gens que ça concernait, c'était pas que les riverains immédiats. Et ça, c'était aussi une manière de répondre à quelque chose qui est toujours une attaque contre les mouvements de défense d'un milieu et des habitants humains et non humains qui y vivent. C'est que, ah, mais vous êtes pas d'ici, en fait. Vous êtes, qu'est-ce que vous venez foutre là? Nous, on a été attaqués parce qu'il y avait, ils avaient fait l'inventaire de nos plaques d'immatriculation en disant, ah, mais attendez, il y en a qui viennent de Marseille, même. Bon, et du coup, une façon de raconter ça, ça a été de se dire, mais en fait, la question de l'eau, elle s'arrête pas à la porte du village, quoi. C'est pas l'esprit de clocher, ça marche pas avec l'eau. Et de se dire qu'en fait, l'eau, elle est c'est aussi un peu dans la continuité de tout le mouvement biorégionaliste. Je pense en particulier à un poète américain, Gary Snyder, qui est, je vous recommande les textes, c'est juste sublime, le sens des lieux, notamment. Et ça nous a vachement nourri. Et cette histoire de se dire qu'en fait l'eau, c'est la meilleure manière de décrire les conséquences de nos actions dans une perspective écologiste. C'est que le ruissellement, c'est pas le ruissellement à la Macron de soi-disant si les riches sont plus riches, ça va. Bon, non, le ruissellement, c'est si on fait de la merde en amont, en aval aussi. Et ça nous a permis d'essayer de se raconter. Un des slogans qu'on a porté, c'était un fleuve, mille sources et tous ses affluents. Nous sommes la Loire qui se défend. Et avec cette idée de se dire que on pouvait avoir des liens aussi bien avec la Haute-Loire qu'avec la ZAD du Carnet, par exemple, qui se bagarrait pour défendre l'estuaire. Et ça a été vraiment vraiment fort dans les liens qui ont pu se tisser. Et j'ai l'impression que même s'il y a plein de trucs qu'on merdait dans cette lutte et qu'on a finalement quand même pas tout réussi, ce truc-là, je crois qu'il a un peu diffusé et que c'est une chouette façon de se rapporter aussi, de retrouver l'eau, quoi. Chez vous aussi, ça a ressurgi. Ça pourrait être chouette de savoir d'où ça vient. Je sais pas, tu vois, de suivre le fil de l'eau pour faire
non,
les
mais
liens
non,
entre...
justement, il y avait des bassins solidaires préalablement. Donc, les marches dont je parlais, exploratoires, etc., c'est vraiment d'essayer de travailler sur la gestion intégrée de l'eau, c'est-à-dire qu'en haut, il faut moins construire, il faut désimperméabiliser, il faut éviter les bassins d'orage bien bétonnés qui renvoient de toute façon aux stations d'épuration et donc qui mélangent l'eau propre et l'eau sale. Enfin voilà, tout ça, c'était solidaire aussi. Et, oui. Oui, c'est important l'eau, au fait. Hein.
On a encore du temps pour quelques questions.
Bonsoir, déjà merci à tous les trois pour vos engagements respectifs et ces témoignages. Je voulais d'abord réagir sur la question des obligations réelles environnementales au RE. Là. C'est intéressant que l'outil rejaillisse aujourd'hui. Et pour la petite histoire, c'est importé des États-Unis aussi, donc dans le même genre de bizarrerie que les fonds de dotation aussi. Ça vient d'un pays finalement assez libéral. Et il y a quand même un risque aussi avec cet outil-là, c'est que si on veut le déployer à grande échelle, en tout cas ce qui est dit dans les discours politiques, scientifiques autour de l'outil, c'est que il faudrait dédommager ou alors apporter des contributions financières ou des crédits d'impôt aux propriétaires qui s'engagent là-dedans. Donc l'idée que, avec l'implicite derrière que ces propriétaires-là ont un droit à détruire la nature et qu'il faudrait les dédommager pour qu'ils se débarrassent de ce droit-là. Alors qu'on peut arriver au même résultat, par exemple en rendant un terrain inconstructible dans les PLU. Et ça me permet de raccrocher sur une discussion précédente qui était à la fois comment on peut porter des luttes qui sont moins dans la réaction et peut-être un peu plus dans l'anticipation de dégradations probables, et comment aussi sortir de l'indifférence, mais cette fois par rapport au droit et au pouvoir en fait qu'on ignore parfois qu'on a dans les décisions de qu'est-ce qui peut être constructible ou pas, par exemple. Je travaille en ce moment avec une commune qui s'appelle Bois-le-Roi en Île-de-France. Et à l'occasion d'une révision de PLU, en fait, ils se sont retrouvés à avoir une participation massive, mais vraiment massive, des citoyens qui ont fait qu'ils n'ont pas pu ignorer en fait cette question-là de OK, qu'est-ce qu'on fait des bouts de forêt qui sont au milieu de la commune, et ils se retrouvent à organiser carrément une sorte d'assemblée citoyenne en fait pour en discuter à l'avenir. Et donc là, on voit en fait que quand on n'ignore pas les pouvoirs qu'on a, on a tendance à penser avec la propriété privée qu'en fait j'ai aucun pouvoir sur ce qui va se faire dans le terrain qui n'est pas à moi, mais le droit de l'environnement a suffisamment évolué aussi pour inclure des droits de participation, de consultation du public. Et je pense qu'aussi en investissant ces outils juridiques qui sont assez méconnus et qui nous donnent quand même un pouvoir d'action, même si c'est dans le cadre actuel, ce cadre-là, il a quand même des virtualités qu'il faut aussi aller explorer, je pense. Donc c'est pas une question, mais si peut-être si vous avez des réactions par rapport à ça, je serais ravi de les entendre.
C'est vrai qu'on a perdu. Je le lisais dans le train parce que j'avais pas tout lu du livre. Je crois qu'on a perdu la notion de commun. Parce que tout simplement on en a plus. On croit qu'on en a plus, mais au fait, des lieux comme ça qui sont des tiers-lieux ou même un espace public, c'est commun. Donc il faut redonner le goût du commun, en effet, et s'engager. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des burn-out, etc. Mais c'est un minimum, hein, je pense.
Le burn-out, c'est un minimum. Merde.
Non, pas le burn-out, mais s'engager... s'engager, ça, c'est pas nécessairement à fond s'engager. Hein. Ça peut être partager une information, ça peut être juste apporter la soupe au moment où il y a une réunion. C'est pas grand chose. Ça peut être voilà. Mais en même temps, c'est pas une question morale non plus. Hein. Si quelqu'un n'a pas envie de s'engager, il a pas envie, c'est pas grave. Hein. On peut le faire de plein de manières. Moi, je pensais à comment... moi, des fois, je vois une rangée d'arbres qui est pas du tout en danger. J'ai envie de mettre, de partager sur ma page « Attention, arbre en danger ». Donc, tout le monde va réagir. Mais au fait, je vais simplement mettre comme un teasing. Après, ben non, il est juste en vie, mais il est en danger. Ben, voilà, ça, c'est s'amuser à faire des choses. voilà. Oui, pour le commun. Donc, je crois qu'il y a une notion de commun qui est perdue. Ça, on en a encore pour 5 heures, hein, si on part de commun.
C'est vachement intéressant. C'est effectivement cette histoire de comment on régule aussi le ce qu'en droit on appelle l'abusus, quoi, le fait de pouvoir tout péter parce que c'est chez nous, ce qui est drôle, le droit de la propriété qui est super, enfin qui est très récent en fait historiquement, mais. Et j'aimerais bien en savoir plus sur cette histoire à Bois-le-Roi, là, c'est intriguant. Et ça me fait penser aussi, si ça vous intéresse, il y a une toute une dynamique de réflexion et de lutte aussi qui a été lancée autour de la revue Terrestre, s'appelle Reprise de Terre, et donc il y a déjà eu tout un numéro au mois de juin sur le site de Terrestre, juillet sur le site de Terrestre. Il y a eu des rencontres cet été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et il va y avoir des traces de ces rencontres, et en fait tout un des enjeux c'est aussi de se poser cette question du rapport au commun, du rapport à la propriété et de comment défendre les milieux par l'usage, par la protection, etc. Donc il y a peut-être des prolongements chouettes à aller voir de ce côté-là.
Juste encore Non, mais c'est parce que, bon, c'est très bien la participation, et même maintenant, depuis 20 ans ou 10 ans, elle est très organisée. Elle est obligatoire pour certaines constructions, et au fait, ça nous a énormément endormis aussi. C'est parce que on participe et puis on n'a pas les résultats, on oublie qu'on a participé, et alors que bah, le promoteur va s'asseoir sur les, ou la région, enfin ou l'autorité va s'asseoir sur le diagnostic et va en faire ce qu'il veut. Donc on a aussi été ramollis par cette procédure de participation et de consultation, et donc c'est quand même aussi très important d'agir en dehors du cadre.
Je finis juste en disant que donc vous, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir la page Facebook du Marais Wills, et il y a un article sur la revue Terrestre.
Il y a plus de site internet, mais il y a la lutte continue sous une autre forme. C'est plus trop le village de la Loire, ça s'appelle plutôt la Loire vivra. Et puis il y a deux articles sur la revue Terrestre. Un premier qui explique le projet, qui s'appelle le pont de trop, je crois, et un autre qui est un peu plus triste, mais qui est quand même important à lire, sur le récit des journées de déboisement et qu'est-ce que ça fait quand on défend un lieu de se retrouver face à, je disais, 80 gendarmes antiterroristes et des abatteuses géantes. Voilà. Donc ça s'appelle, je sais plus, la forêt, non, la métropole bétonne la forêt, mais vous tapez mardi et dans Terrestre, vous trouverez les articles.
Et merci de votre attention à 19h30 un dimanche, c'est héroïque. Merci à vous.